Bonjour et merci d'être venu pour cette leçon d'aujourd'hui. Nous allons continuer notre réflexion sur la manière dont la littérature narrative et romanesque réfléchit avec nous à cette question de la non-identité entre le jeu et sa vie. Je vous rappelle que nous avons commencé en parlant de la présence du malheur. C'est la présence du malheur qui nous fait saisir d'un coup la non-identité entre le jeu qui subit le malheur et sa vie, et qu'à l'origine, qu'à l'origine, ce malheur était présenté comme inexplicable. Il venait de quelque part de loin, il venait soit des dieux, soit des humains qui se prenaient pour des dieux. Nous avons aussi parlé de la distance entre le moi et entre le jeu et sa vie, dans cette vision du monde comme un rêve. Nous ne sommes pas tout à fait présents dans ce monde, nous ne sommes pas tout à fait intégrés. Aussi, nous avons parlé de la manière de quitter ce monde, à la réflexion sur le fait que tôt ou tard, il nous faut faudra le quitter. Nous avons aussi vu une image du monde que la littérature présente et qui est une image extrêmement fréquente. Elle a occupé, pour ainsi dire, la prose narrative pendant des siècles, le monde comme une sorte d'adversité constante, une adversité qui ne se fatigue jamais, une adversité infatigable, qui cependant effleure l'individu sans le détruire. Et nous avons parlé de deux types de littérature, celle où de ce genre de narration, celle où le héros s'oppose au monde, une dignité stoïcienne, et celle où au contraire le personnage est un cynique, c'est le héros romanesque et le picaro. Ce sont le héros romanesque et le picaro. Nous avons réussi la dernière fois à atteindre, disons, le 19e siècle, où la question qui commence à se poser est celle de la liberté strictement individuelle. Et je continuerai cette réflexion aujourd'hui sur une littérature qui réfléchit à la liberté sans la présenter directement, comme résistance au monde, par exemple, mais qui fait un passage par le rapport que nous entretenons avec la société. Et ici, lorsque la littérature commence à réfléchir sérieusement au rapport que nous entretenons avec la société, elle oppose deux visions assez différentes, qui s'affronteront tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle. La première conception est que nous sommes des êtres autosuffisants. Nous sommes des êtres autosuffisants, c'est ce qu'on appelle de nos jours l'autonomie humaine. Nous sommes des êtres autosuffisants, du moins du point de vue moral. Du point de vue moral, la loi morale vient de nous-mêmes, et nous la trouvons dans notre propre cœur. Nous sommes maîtres de nous-mêmes. C'est une option qui a eu beaucoup d'adeptes depuis le XVIIIe siècle. Au fond, c'est une conversion du stoïcisme romanesque. Non seulement le héros est capable, nous sommes capables de résister à cet univers dont l'adversité nous effleure sans arrêt, mais le héros donne sa loi à l'univers. Et, il donne sa loi à l'univers, ou elle donne sa loi à l'univers, puisqu'il s'agit surtout de héroïnes féminines, parce que ces héros ou ces héroïnes ont une belle âme. Ils sont leur âme est d'une extraordinaire beauté. Il suffit de se concentrer et de la regarder, et la loi morale irradie de l'intérieur de cette âme. Et donc, il y a comme dans cette approche de la littérature, de la littérature narrative, qui est celle, on a déjà vu cela la semaine dernière, celle de Richardson et de Rousseau au XVIIIe siècle, il y a comme une tentative de rapprocher le jeu et sa vie. Nous sommes notre vie. Nous sommes notre vie selon cette conception. Nous sommes notre vie parce que le pouvoir législatif moral nous appartient. Je fais une petite parenthèse pour dire, voilà ici une grande tentation de croire, la grande tentation de croire qu'il suffit d'avoir le pouvoir législatif pour avoir du véritable pouvoir. Il ne suffit pas de légiférer. C'est une erreur des théoriciens de la démocratie contemporaine. Il ne suffit pas de légiférer pour exercer du pouvoir. On l'a vu ce printemps dans ces livres-là. Bon, mais enfin, disons qu'au XVIIIe siècle, on croyait qu'il suffisait de légiférer du point de vue moral pour avoir effectivement du pouvoir. Mais on s'est très tôt rendu compte que dans cette nouvelle, dans cette conversion moderne du stoïcisme, l'individu devient en fait plus vulnérable. Il y a une grande vulnérabilité de l'individu. Pourquoi ? Parce que dans le roman ancien, dans le roman grec ou dans le roman héroïque du XVIIe siècle, des personnages comme Cariclée dans les Éthiopiques ou Artamène dans Artamène ou le Grand Cyrus ont une sorte d'alliance implicite avec la divinité. Ils sont alliés avec la providence. Le lecteur sait que rien de mauvais ne peut arriver en fin de compte à ces personnages parce qu'ils seront toujours protégés par la providence. Une fois la providence qui impose une certaine loi morale de l'extérieur, et une fois qu'on abolit ce niveau extérieur et que la loi morale est censée partir du cœur du personnage, la situation se complique parce que on peut facilement imaginer un univers qui obéit en dernière instance à une providence. Toutes les civilisations ont eu cette idée, mais ou presque. Il est cependant plus difficile de croire que l'univers obéira à la loi qui part du cœur de l'individu. D'où, immédiatement après ces romans comme celui de Richardson, Clarissa, ou de Rousseau, Julie, immédiatement après, on peut lire Werther et un peu plus tard René, qui sont les romans de l'histoire d'âmes fragiles, vulnérables, en proie à l'hostilité indomptable du monde. Ce sont Werther, le personnage de Goethe, René, celui de Chateaubriand, font le constat de leur impuissance et se retirent. Et en grande partie, peut-être, le romantisme, il y a toute une filière romantique qui est tout simplement le constat de cette impuissance, le constat du fait désagréable que le monde n'obéit pas à celui qui, en principe, est autorisé à lui donner sa loi. Donc, une première conséquence de cette conception de l'autosuffisance humaine est la vulnérabilité de l'individu. On est très puissant, mais en réalité, les choses ne se passent pas exactement comme la théorie nous l'enseigne. Deuxième conséquence, qui aura une influence considérable sur la littérature du XIXe siècle. Dans cette nouvelle vision de l'individu, il sera considéré comme responsable de sa réussite. Et surtout, ce qui est encore pire, responsable de son échec. Responsable. Si ça ne marche pas, la faute est à vous. Le malheur ne vient pas des dieux, il ne vient pas de la providence, il vient de vous. C'est vous qui échouez. Je le dis en passant, c'est quelque chose que Tocqueville a tout vu au XIXe siècle sur les contrastes entre l'ancienne société et la nouvelle, a très bien remarqué lorsqu'il note que dans le monde démocratique, pour employer le langage contemporain, les gens sont plus souvent déprimés qu'avant. Il y a des maladies mentales les maladies mentales sont plus répandues, les gens sont plus déprimés. Pourquoi ? Et c'est lui-même qui se rend compte du fait que les gens sont plus déprimés parce qu'ils sont responsables de leur succès ou de leur échec. Si vous ouvrez, disons, le chemin à toutes les carrières, à tout le monde, le fait de réussir, de ne pas réussir, devient une responsabilité personnelle. Et même le personnage de Goethe, Werther, est responsable de son échec, je dirais. Ou enfin, on pourrait discuter cela, mais il n'est pas tout à fait innocent de ce qui lui arrive parce qu'il ne réussit pas à se ressaisir de manière optimiste et à échapper à ses obsessions amoureuses. Il se détruit, dirait un conseiller psychologique optimiste, il se détruit en se rabattant avec une passion malsaine sur ses propres rêveries. C'est un héros médiéval dépourvu de force chevaleresque, voilà. Le pauvre, oui. Chez Werther, ce qui est... Et chez René aussi, ce qui est très émouvant, et en même temps, ce qui ne nous fait pas sympathiser tout à fait avec ces personnages, en tout cas dans mon cas, je ne sympathise pas tout à fait avec Werther à partir de certains moments, ni avec René déjà depuis le début, parce que ces personnages ne se battent pas. Ils sont déprimés, ils ne se battent pas. Ce sont des personnages qui ne luttent pas contre leur dépression et contre le monde, si possible. Plus tard, pour répondre à ces personnages qui échouent, le XIXe siècle concevra des personnages qui luttent contre le monde. Un des plus sublimes est bien entendu Jean Valjean, le personnage de Victor Hugo, qui lutte contre le monde et qui lutte aussi avec soi-même, qui réussit à se dominer lui-même. Il y a presque comme une sorte de spécialisation au XIXe siècle. Le roman français s'intéresse surtout à cette, et on verra ça tout de suite, à la lutte de l'individu contre le monde qui l'entoure. C'est le roman anglais qui développe dans la durée d'une existence la découverte de soi-même, ce qu'on appellerait aujourd'hui le travail sur soi. C'est le roman de formation en anglais. Est-ce que cette lutte est une nouveauté? Moi, j'ai tendance toujours, lorsqu'il y a une grande nouveauté, de regarder un peu en arrière s'il n'y a pas peut-être des précurseurs, comme on dit. Cette lutte avec soi n'est pas tout à fait une nouveauté. Elle était déjà l'objet d'un genre narratif qui est la nouvelle. À part le fait que la nouvelle met l'accent sur une seule conflagration, un seul moment de lutte, un seul échec ou un seul succès normatif. La nouvelle est conçue selon l'esthétique du de la pièce de théâtre, du drame, de la tragédie, même si, si vous voulez. Dans la nouvelle, dans des nouvelles du XVIIIe siècle comme Manon Lescaut, dans des romans d'analyse du début du XXe comme Adolphe, la culpabilité est absolument claire, indubitable, et le conflit est, je dirais, circonscrit dans le temps. Tandis que dans le roman du XIXe siècle, nous verrons des personnages qui luttent avec eux-mêmes et qui se découvrent sur 800 pages ou qui luttent avec le monde sur des centaines de pages. Et ils font, les conflits sont extrêmement complexes. Et de nouveau, dans le roman du XIXe siècle, le personnage comprend, d'une part, la difficulté d'imposer au monde sa propre loi, une loi venue de l'intérieur, une loi légitime. Et le roman anglais, on verra tout de suite comment les choses se passent chez Balzac, mais je dis déjà que dans le roman anglais, la qualité essentielle, celle que les personnages du roman anglais du XIXe siècle découvrent tous, est une certaine lucidité. Ils arrivent tous à se rendre compte que il faut se connaître soi-même, mais il faut aussi découvrir sa véritable place dans le monde. C'est le thème de Jane Austen, de Dickens, de George Eliot. Devenir soi-même, c'est savoir où l'on se trouve et comment maximiser le peu d'influence que nous avons sur notre bonheur. C'est le chemin de la maturité. Ceci, donc, sont les conséquences d'une conception qui pose l'être humain comme autosuffisant du point de vue moral. Mais il y a une deuxième possibilité qui sera, elle aussi, extrêmement importante dans la littérature du XIXe siècle et qui a rapport à notre liberté en relation avec la société, c'est d'accepter que nous ne sommes pas tout à fait notre vie, et nous ne sommes pas tout à fait l'origine de notre vie, mais que nous recevons notre vie, nous la recevons. Ceci est quelque chose qu'il faut toujours se rappeler, et nous sommes dans la position de celui qui reçoit, et non pas de celui qui impose, et nous ne recevons pas notre vie simplement de nos parents, mais nous la recevons du monde, de la société, de la tradition et de l'histoire. Et c'est à travers, disons, cette conception qu'on arrive à conceptualiser fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, à conceptualiser un peu l'opacité du monde, sa résistance à l'action et à la volonté humaine. Si cette résistance, en plus, on se rend compte qu'elle n'est pas une résistance tout à fait homogène comme la résistance des vieux romans, où le monde est tout le temps hostile au personnage, sauf à la fin, au moment de la victoire finale et du mariage qui conclut le roman. Ce n'est pas une résistance homogène. Et elle n'est pas non plus une résistance ponctuelle, comme dans la nouvelle. Mais c'est une résistance qui se différencie et qui acquiert une dynamique qui lui est propre. Le monde du roman du XIXe siècle, de la première moitié et même de la deuxième moitié du XIXe siècle, est un monde qui demeure divisé en alvéoles bien séparées les unes des autres, comme dans le genre picaresque, mais qui communique les unes avec les autres par des chemins multiples, compliqués. C'est un monde qui forme organisme. voyez, c'est le monde qui a été décrit de manière admirable très tôt par Herder, par le philosophe allemand Herder, qui était un optimiste et un anti-universaliste. C'est quelqu'un qui a dit cette parole extraordinaire qu'on oublie trop souvent, il n'y a plus d'une manière d'être heureux. Il y a plusieurs manières d'être heureux. Et les différentes nations, ou les différentes cultures, si vous voulez, dans la période dans l'Europe de son temps, sont dans sa conception des différentes manières d'arriver au bonheur. Donc Herder est un anti-universaliste heureux. Il existe des anti-universalistes mélancoliques. Oui. H-E-R-D-E-R. H-E-R-D-E-R. Herder. Il y a des anti-universalistes sombres qui sont... plus sombres, oui. Dont un est Edmund Burke. Qui comprend lui aussi le fait que nous vivons dans un monde qui est en grande partie opaque à l'action de la raison. Et quelqu'un qui est encore plus sombre, c'est le français Bonal, B-O-N-A-L-D, qui a beaucoup influencé Balzac. C'est un penseur qui n'est pas fréquenté, parce qu'il a une mauvaise réputation. N'empêche, il a des aperçus d'une grande force. Il est difficile pour nous de saisir à quel point les théories de Burke, de Bonnard, rendaient un son puissant après les aventures de l'histoire française entre 1788 et 1815. C'est le moment, c'est à cette période-là qu'on apprécie à quel point le monde peut résister à la raison abstraite, aussi au fait qu'on a déjà vu que l'utopie engendre la violence et que ce monde résiste de mille manières. Il le fait en Espagne, il le fait en Russie, il résiste en Angleterre, il résiste en Autriche et en France aussi. Et donc les pays existent, que le monde est différencié de manière extrêmement, extrêmement subtile et qu'au fond, des gens comme Condorcet se trompent. C'est quelque chose qu'on entend très, 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 de manière très forte chez Balzac et qu'au fond, la principale nouveauté des temps qu'on appelle modernes n'est pas tellement la capacité humaine, disent ces gens-là, enfin c'est pas moi qui parle ici, n'est pas la capacité humaine d'imposer des structures dites rationnelles au monde social, mais celle des individus de poursuivre leur propre fin en toute liberté. Quoique Bonnard, je ne sais pas s'il était tout à fait d'accord avec ceci, mais parfois il était quand même un peu d'accord avec l'idée que le mérite pourrait quand même avoir une petite place dans la promotion sociale. Bon, donc le héros, dans ce genre de vision, qui est la vision historiciste, finement différenciée du début du 19e siècle, sera celui qui parvient soit à affronter et peut-être même à maîtriser le labyrinthe de ce monde finement différencié dans lequel l'homme peut changer de place. Et dans ce cas, ce dont le héros a le plus besoin est d'énergie. Et le grand auteur de l'énergie est précisément Balzac. Mais chez Stendhal aussi, ces personnages ont certaine énergie. Donc, soit affronter, donc on a besoin de héros énergiques, soit de vivre en paix avec ce monde, de faire leur paix avec ce monde, et ce dont ce héros aura besoin, c'est d'une certaine tranquillité intérieure. Voilà d'une certaine tranquillité intérieure. Et là, ça deviendra au XIXe siècle une des spécialités, des grandes spécialités de la littérature allemande. C'est là que Stifter, ou plus tard un auteur comme Fontane, c'est de là qu'ils tirent, disons, leur force. Ils saisissent ce besoin de tranquillité intérieure. Et donc, on voit bien que dans cette configuration, l'homme a réussi quand même à croire qu'il a au moins le droit d'espérer de maîtriser sa vie et de dépasser cette non-identité qui est le thème de notre réflexion entre le « je » et sa vie, entre moi et ma vie. Aller au-delà de cette division, rester en deçà. Donc, vous voyez, je prends Balzac et son roman le plus important, Les Illusions perdues, dont nous allons lire aussi quelques fragments, pas la totalité du roman. N'insistez pas. Pour Balzac, donc, qui est un exemple excellent d'auteur qui réfléchit au personnage qui affronte et essaie de maîtriser un monde finement différencié. Il y a un élément de plus pour comprendre Balzac, c'est la présence, surtout en France, mais d'ailleurs dans toute l'Europe du XIXe siècle, de ce que j'appellerais le mythe napoléonien, et c'est sous l'influence de mon collègue Robert Morisset que j'ai été amené à voir l'importance de cette thématique. Dans cette thématique napoléonienne est essentielle parce que, selon elle, la réussite, pour être une véritable réussite, elle doit être visible, elle doit être sociale, visible donc au niveau social, et elle doit être totale. L'énergie, donc, pour être efficace, doit, à la fin, agir, comme le dit Balzac, à partir d'un seul point. Très, très, très important. Ce point doit se placer au sommet de la société. Et il doit avoir un pouvoir total. Vous voyez que si on voit les choses de cette manière, on justifie simultanément les génies. Le génie est justifié parce que c'est celui qui a le pouvoir total. Et on justifie aussi le pouvoir monarchique. C'est pour ça que Balzac était royaliste. Sa vision de la société, et c'est pas seulement la sienne, c'est une vision qui est extrêmement résistante, et selon moi elle est fausse, c'est que la société est organisée comme un jeu à somme nulle. Il y a un caractère fini, les biens sont finis, il y a une quantité finie de biens, et gagner, si je gagne, tu perds. Ou si X gagne, Y perd. Deuxièmement, celui qui gagne emporte tout, emporte la mise. Je gagne, tu perds tout. Ce qui exacerbe la rivalité entre les joueurs, la cruauté du jeu et la maxime, la fin justifie les moyens. Bon, je crois que ceux d'entre vous qui ont lu ou peut-être même relu récemment les Illusions perdues voient un petit peu que ce dont il s'agit dans les Illusions perdues, c'est exactement un monde de ce type. Ceux qui gagnent emportent tout. Et Balzac, devait être quelqu'un d'extrêmement... non pas tolérant, mais quelqu'un qui a embrassé l'ensemble de l'univers et qui s'identifiait un petit peu avec toutes les possibilités. Balzac a en même temps une certaine sympathie pour cette vision, mais il sait qu'elle est profondément destructrice. Et tout en ayant des opinions royalistes, qu'il exprime d'ailleurs dans les Illusions perdues, tout en rêvant d'un contrôle exercé à partir du sommet, tout en étant un grand admirateur de Napoléon Bonaparte, chez lui, le désir de, disons, cette vision hiérarchique du de monde où le jeu est un jeu à somme nulle coexiste avec une sympathie irrésistible pour le désir de promotion sociale et pour le désir d'action sociale libre. Donc, il est à la fois un libéral dans sa vision des possibilités individuelles, un libéral du XIXe siècle, je veux dire, et par son culte de l'énergie, et un légitimiste dans ses préférences politiques, parce qu'il ne peut pas s'empêcher, comme on le voit d'ailleurs dans Les Illusions perdues, de vouloir en même temps la liberté et d'avoir une répugnance pour le chaos, pour un certain désordre qui est nourri par la rivalité généralisée. Vous voyez l'illusion perdue décrit précisément cette contradiction. Le fait que le génie a la possibilité de principe d'arriver à ses sommets napoléoniens, mais le chemin qui y mène est soit horriblement difficile. Vous vous souvenez du cénacle de ses amis de Lucien de Rubempré qui suivent le bon chemin qui est horriblement difficile, soit il existe un chemin qui semble en apparence plus facile mais qui est semé d'embûches et où l'échec peut... Le succès est assez facile mais l'échec aussi est tout aussi facile. C'est le monde de la presse, le monde du théâtre et celui de la politique. Alors, je parlerai des Illusions perdues, un roman sur lequel on a écrit énormément de choses. Je ne ferai que répéter probablement des choses qui ont été dites ailleurs, mais de manière sélective. Je parlerai de plusieurs thématiques. Tout d'abord, je parlerai des rêveurs et des forcenés balzaciens. Deuxièmement, nous allons regarder un petit peu la manière dont Balzac conçoit l'intimité. L'intimité, c'est-à-dire la manière dont les êtres construisent leur vie intime. Nous parlerons aussi, à l'intérieur de cette intimité, du gaspillage, d'un énorme gaspillage de l'intimité qu'on a chez Balzac. Et ensuite, nous parlerons de ce rêve d'être au centre et du vertige donc du succès et aussi là aussi du gaspillage énorme du talent. C'est un roman de l'énergie et du gaspillage. Donc il y aura je vais essayer d'abord de parler de cet engendrement du rêve de l'ambition et ensuite de la manière dont on peut gaspiller son énergie. Alors, les personnages de Balzac sont très souvent des rêveurs et des rêveurs de l'absolu. Ce sont des choses qu'on a souvent dit. Et dans ce roman en particulier, Lucien, David, Eve, ils sont tous des rêveurs. Ils ne vivent pas tous dans le monde réel. Ils ne vivent pas. Ils vivent dans un monde imaginaire. Et en fait, si on réfléchit un peu, on voit que chez Balzac, il y a peu de personnages qui connaissent exactement le monde tel qu'il est et qui le perçoivent avec une certaine exactitude. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle Balzac sent le besoin constant de vous expliquer le monde. Et il fait, y a ce petit syntagme « voici pourquoi » qui revient très souvent chez Balzac. Parce que lui, il doit vous expliquer, puisque ces personnages sont en général des rêveurs, des gens qui sont un peu aveuglés. Les seuls qui sont tout à fait lucides sont soit ceux qui ont une sorte d'élément de sainteté, qui ont dépassé ce monde, qui se consacrent à la bienfaisance. C'est le docteur Benassi dans Le médecin de campagne, ou Véronique Gralin dans Le curé de village, qui comprennent le monde. Ou alors il y a les personnages qui sont presque démoniaques, les personnages qui sont parfaitement mauvais, la cousine bête, qui comprennent le monde parce qu'ils doivent savoir le manipuler. Donc, mais la grande partie des personnages, la grande majorité des personnages de Balzac sont, sinon des rêveurs, au moins des inadaptés. Ils ne réussissent pas à véritablement coïncider avec leur milieu. Eux non plus. Chez Balzac, les gens ne sont pas leur vie. On a interprété ceci de manière sociale. C'est vrai. Il y a évidemment les bons critiques marxistes comme Lukács, comme Pierre Barberis, comme André Wurmser qui ont très très bien montré que Balzac est un auteur de l'aliénation qui est dû à un certain type de société fondée sur etc. Mais moi ici j'essaie de dire que ceci est un cas par ce type d'aliénation sociale qui a été observé par les marxistes au XIXe siècle est un cas particulier de quelque chose qui est beaucoup plus général. Mais c'est vrai que Balzac décrit précisément ce type d'aliénation. Ce sont des personnages qui ne coïncident pas avec leur milieu. Ils reçoivent leur vie de leur milieu et cependant ils ne coïncident pas, d'abord. Et deuxièmement, ce sont des personnages dont dans la plupart des cas la trajectoire rate. Ce sont des ratés. Balzac est un grand écrivain du ratage, de l'énergie qui rate. Hein. Et cette inadaptation a deux sources. C'est pas tout à fait vrai de dire que l'inadaptation a simplement un contexte social, quoique elle l'a, l'inadaptation provient aussi de l'intérieur. Quant au contexte social, chez Balzac, il est décrit selon la méthode inventée par Walter Scott, auteur auquel il fait allusion tout le temps, et qu'il développe lui-même Balzac. Chaque partie du monde a sa propre physionomie, et elle exerce une pression sur l'être humain. Et dans ce n'est pas seulement les auteurs marxistes comme que ceux que je viens de citer qui ont vu ceci, mais aussi d'autres critiques comme Bernard Guyon qui a publié en 1947 une immense thèse, La pensée sociale et politique de Balzac, extrêmement fiable, qui analyse le pessimisme social de Balzac et une certaine résistance de Balzac au nouveau monde. Alors voilà, ce monde social existe, il est fortement individualisé dans chacune de ces alvéoles et il faut décrire ces alvéoles. Il ne suffit pas, comme dans le roman du XVIIe siècle, de projeter comme une sorte d'homogénéité du monde. Voilà, je vais lire ici à la page de 129. Je vous lis le début. À l'époque où commence cette histoire, la presse de Stanhope et les rouleaux à distribuer l'encre ne fonctionnaient pas encore dans les petites imprimeries de province. Bon, voilà un roman, s'il était publié aujourd'hui, en librairie, un roman qui commence comme cela, les gens le mettraient immédiatement à la poubelle. C'est pas quelque chose qu'on est intéressé à lire, un roman qui nous parle des rouleaux à distribuer l'encre et qui ne fonctionnait pas encore dans les petites imprimeries de. Malgré la spécialité qui la met en rapport avec la typographie parisienne, Angoulême se servait toujours des presses en bois. Quelle est la spécialité qui l'a liée à la typographie parisienne? Il faut des notes en bas de page. C'est le fait qu'à Angoulême, on fabriquait le papier. C'était l'endroit. Mais il ne l'explique pas. Se servait toujours des presses en bois auxquelles la langue est redevable du mot « faire gémir la presse ». Maintenant, sans application. Ajout de Balzac, je ne sais pas s'il était ironique, oui, il écrivait comme ça, comme on le sait, avec une rapidité extraordinaire, mais faire gémir la presse, c'est le sujet des illusions perdues, où effectivement, la carrière, le succès et l'échec de Lucien de Rubempré vient du fait qu'il fait gémir la presse. Et on continue avec le plateau mobile où se place la forme pleine de, etc., etc. Quand j'étais jeune, je sautais les descriptions. Mais j'ai lu la comédie humaine dans ma vie, évidemment parce que je suis professeur de littérature, donc c'est ce qu'on fait dans notre métier. J'ai lu la comédie humaine d'un bout à l'autre 3 fois. Et la deuxième fois, la première fois je l'ai fait en Roumanie, j'étais intéressé à l'action et je voulais savoir si le personnage va réussir à épouser la femme qu'il aime. La deuxième fois, je l'ai lu beaucoup plus tard, j'étais déjà au Canada et j'avais passé une année en France, donc, et plusieurs étés même en France, donc je savais un peu de quoi il parlait. Et là, la deuxième fois, je lisais les descriptions et je sautais les dialogues. Les histoires amoureuses me semblaient absolument inintéressantes, tandis que précisément cette imprimerie qui employait encore les balles en cuir frottées d'encre avec lesquelles l'un des pressiers tamponnait les caractères me semblait la chose la plus vivante. Voilà, donc si certains d'entre vous trouvent les descriptions ennuyeuses, sachez qu'il y a des gens dans ce monde qui lisent peut-être Balzac tout simplement pour les descriptions. Pour la description d'Angoulême, par exemple. Une admirable description d'une ville divisée. Angoulême est une vieille ville bâtie au sommet d'une roche en pain de sucre qui domine les prairies où se roule la Charente. Ce rocher tient vers le Périgord en une longue colline qu'il termine brusquement sur la route de Paris à Bordeaux, en formant une sorte de promontoire dessiné par 3 pittoresques vallées. Et la noblesse vit au sommet de la ville, tandis qu'en bas, il y a la bourgeoisie. C'est une description qui est en même temps une description sociale. Les descriptions des maisons, je vous lis un tout petit passage, un fragment de la description de la maison de Séchard, le père de David, est une description aussi morale. Les descriptions de Balzac sont soit sociales, soit... Le premier étage de cette maison, au-dessus duquel il n'y avait que 2 chambres en mansarde, contenait 3 pièces. La première, aussi longue que l'allée, moins la cage du vieil escalier de bois, éclairée sur la rue par une petite croisée oblongue et sur la cour par un œil de bœuf, servait à la fois d'antichambre et de salle à manger. Purement et simplement blanchie à la chaux, elle se faisait remarquer par la cynique simplicité de l'avarice commerciale. Vous voyez ? C'est le destin. J'aurais pas dû attaquer avec Balzac la cynique simplicité de la... Non, je suis absolument... Balzac se trompe. Donc, vous voyez comment la morale, et en même temps la morale dans ses liens avec la société, pénètre les descriptions, balzaciennes. C'est un monde dans les alvéoles de ce monde, comment Balzac place, comment le monde place les classes sociales et les individus qui ont tous des traits individuels extrêmement puissants. Ce n'est pas du tout un monde de l'égalité. C'est très important. C'est un monde ancien qui est agité, secoué par le drame de l'histoire. Quant au personnages, quant aux personnages, comme je viens de le dire déjà, ils sont le résultat de deux forces, la pression qui vient de l'extérieur et l'énergie qui sort du bain. Et cette énergie n'est pas tout simplement une énergie sociale. Quoique Balzac est un des meilleurs descripteurs de l'ambition sociale, il est en même temps un auteur mystique. C'est un mystique. Chez lui, cette énergie vient d'ailleurs. Elle vient d'ailleurs. Balzac, on le sait, était un disciple de Swedenborg. Il avait des vues tout à fait non scientifiques sur l'univers. Et c'est Curtius et Maurice Bardèche qui ont compris cet aspect de Balzac. Les individus sont agités par une force qui les dépasse. Cette énergie les dépasse et cette énergie les empêche en quelque sorte de se coordonner tout à fait avec le monde. Donc vous voyez, il ne s'agit absolument pas ici de ces femmes d'une extrêmement calme comme Julie chez Rousseau ou comme Pamela chez Richardson qui imposent au monde une loi morale. Il s'agit de véritables forcenées, de véritables agitées par une énergie qui vient d'ailleurs et qui fonce vers l'univers. Ils agissent souvent, ils agissent très très souvent, comme s'ils étaient seuls au monde. Comme s'ils étaient seuls au monde et comme si leur énergie devrait être toute puissante et ne pas rencontrer d'obstacles, ce qu'en fait elles rencontrent. Ils sont tous des donneurs de lois dans un sens extrêmement fort. Ils sont tous des petits Napoléons. Sont toutes dépourvues de tact, impulsifs, extrêmes, indifférents aux contraintes de la réalité. Vous voyez, dès le début, si vous avez relu le roman, on voit M. Chardon, le père de Lucien, pharmacien, qui presque découvre un médicament contre la goutte, mais qui ne songe même pas à protéger sa famille contre la pauvreté. Ils sont tous à la recherche de l'absolu, mais ne regardent pas tout à fait autour d'eux. Et leur rêve est le rêve le plus fréquent chez les personnages de Balzac, chez ces rêveurs, chez ces forcenés, c'est de changer le monde. C'est comme de petit Napoléon, ils veulent changer leur succès et le changement de l'univers. Nous avons ici deux amis, David et Lucien, ont une profonde affection l'un pour l'autre et qui sont dans une opposition du Balzac romantique, le poète et l'industriel, celui qui veut changer le monde par la création littéraire, l'autre qui veut le faire par l'invention industrielle, c'est l'économie et la littérature, c'est l'esprit et la matière. Hein. Mais vous voyez, Balzac ne perd pas de vue leur position réelle dans le monde. Ces deux jeunes gens jugeaient la société d'autant plus souverainement qu'ils s'y trouvaient placés plus bas. Car les hommes méconnus se vengent de l'humilité de leur position par la hauteur de leur coup d'œil. Remarque typiquement balzacienne. Bon. Et ils ont une vision tout à fait exaltée de l'avenir. Ces dispositions d'ambitieux. Bon, ils étaient des ambitieux, mais ceci n'était pas tout à fait visible parce que ces dispositions d'ambitieux prenaient encore la forme des belles illusions de la jeunesse, de l'ardeur qui les portait vers les nobles moyens que les hommes amoureux de la gloire emploient avant tous les autres. Lucien n'était pas encore aux prises qu'avec ses désirs et non avec les difficultés de la vie, avec sa propre puissance et non avec lâcheté des hommes, qui est un fatal exemple pour les esprits mobiles. parce que rêver signifie ne pas faire attention à la réalité. Et ce manque d'attention peut être sublime, comme chez David et chez Lucien pendant un certain temps. Il peut être tout à fait ridicule, comme chez Madame de Bargeton, qui est la muse de Lucien et qui est le type de la précieuse ridicule au XIXe siècle. Elle non plus n'est pas coordonnée avec le monde. Elle aussi aspire à quelque chose de plus grandiose. Elle aussi rêve, mais son rêve nous fait rire. Elle avait le défaut, dit Balzac, d'employer ces immenses phrases bardées de mots emphatiques, si ingénieusement nommées des tartines dans l'argot du journalisme. Elle prodiguait démesurément des superlatifs qui chargeaient sa conversation où les moindres choses prenaient des proportions gigantesques. Dès cette époque, dit Balzac, elle commençait à tout typiser, individualiser, synthétiser, dramatiser, supérioriser, analyser, poétiser, prosaïser, colossifier, angéliser, néologiser et tragiquer. Parce que, romantique qu'il est, Balzac peut être d'une méchanceté sans borne. Donc. Bon. Alors, ce sont des rêveurs sublimes ou des rêveurs ridicules, et nous allons les suivre dans leur vie intime et dans leur vie sociale. Si j'avais un peu plus de temps, et si on ne devait pas se séparer à minuit, mais seulement demain matin, je pourrais parler des amours, des trois types d'amour qu'on voit dans les illusions perdues, et dont je vais appeler un par un terme qui vient de Stendhal. Il y a d'abord l'amour idyllique. Il y a l'amour idyllique, c'est l'amour entre Ève et David. Je dois absolument lire la description de cet amour. Aussi, depuis leur première entrevue, Ève et David, une sourde et simple passion s'était-elle émue entre eux à l'allemande, sans manifestation bruyante ni déclaration empressée. Je ne sais pas si vous avez eu la patience de regarder Stifter avant d'arriver ici, mais vous voyez que Balzac, qui, je crois, savait tout, il prévoyait déjà l'homme sans postérité, il savait déjà ce que cet autre type d'amour que nous verrons tout à l'heure. Hein. C'est un amour de la pure intériorité, c'est un amour secret, la réciprocité n'est pas voulue, c'est un amour timide qui contient un respect profond, une grande générosité. Il y a une très belle scène d'aveu de cet amour, enfin, où David n'ose pas exprimer son amour directement, mais il dit à Ève qu'il voudrait l'épouser tout simplement pour pouvoir en aider Lucien, pour qu'eux deux ensemble, ils puissent aider Lucien. Il est d'une extraordinaire discrétion sur son amour, mais ceux d'entre vous qui connaissent le roman, Balzac, pour lequel j'éprouve personnellement une immense tendresse, ne peut pas s'abstenir de discourir et tombe parfois dans le ridicule, comme par exemple dans cette scène d'amour où, après avoir fait preuve d'une immense délicatesse, David dit à Ève qu'il a un secret. Il a un secret. Et évidemment, ne puis-je savoir le secret, dit Ève d'une voix câline. Vous y avez des droits, car votre père s'est occupé de cette question qui va devenir grave, dit David, et il continue en disant, voici pourquoi. Et quand on entend, voici pourquoi, c'est parfois un mauvais signe, et David continue à expliquer sur peut-être des pages et des pages et des pages l'industrie du papier. au début du 19e siècle en France. Voilà. Stifter a compris qu'il ne faut absolument pas faire cela. Il ne faut absolument pas. Bien. Il y a d'autre part l'amour-vanité. C'est l'amour-vanité, celui qui lit pendant un certain temps Madame Bargeton à Lucien. C'est un amour extérieur. Tout est tout simplement simulation. Ce qui est le plus important, c'est le spectacle public, l'illusion, les sentiments sont ambigus. Toujours, je vais voir si je trouve un petit passage. Enfin, ce sont des choses qui sont un peu plus connues. La fière et noble nègre Pélisse, c'est Madame de Bargeton, offrit à ce bel ange, Lucien, celui de ses noms qui se trouvait encore neuf, et voulut être Louise pour lui. Lucien atteignit au troisième ciel de l'amour. Voilà. Ils entretiennent cet amour, mais il disparaîtra dès qu'ils arrivent à Paris parce que chacun d'eux se rendra compte que l'autre n'était pas véritablement un objet dont il puisse tirer vanité. Je ne sais pas si je vais retrouver ici les pages de... Oui, voilà, 273. J'ai ici la disparition de rapide, extrêmement rapide, de cet amour. Ils sont à Paris, Lucien et Louise, dans une loge à l'opéra, à côté de la marquise d'Espard. Louise était restée la même. Le voisinage d'une femme à la mode, de la marquise d'Espard, cette Madame Bargeton de Paris, ajoute Balzac, il aurait dû effacer cela, lui nuisait tant. La brillante parisienne faisait si bien ressortir les imperfections de la femme de province que Lucien, doublement éclairé par le beau monde de cette pompeuse salle et par cette femme éminente, vit enfin dans la pauvre Anaïs de Nègrepelisse la femme réelle, la femme que les gens de Paris voyaient. Et non, et je ne veux pas lire la description, parce qu'elle est trop cruelle, c'est trop cruel. Balzac mérite vraiment parfois d'être la cible des féministes. C'est trop méchant. Hein? Et il y a un troisième type d'amour, qui a eu beaucoup de succès dans le roman du 19e siècle, et d'ailleurs qui s'est imposé un petit peu comme une des normes sociales dans les 30 dernières années. C'est ce que j'appelle l'amour artiste, qui est spontané, qui est très sensuel, où il y a une sorte de générosité égoïste, si j'ose dire. C'est l'amour qui lira un peu plus loin, un peu plus tard dans le roman, Lucien et Coralie, qui appartient au monde du théâtre et qui est une sorte de courtisane. Hein. Voilà l'intimité et le gaspillage. Je parlais de gaspillage ici, je veux le dire très rapidement. Au fond, on se rend compte que avec Madame de Bargeton, tout comme avec Coralie, Lucien gaspille son amour, alors qu'au contraire, Ève et David amassent de véritables trésors en étant ensemble. Et la même chose se passe au niveau de la vie sociale, parce que dans la vie, dans le modèle de succès que se propose d'atteindre Lucien, qui est le modèle napoléonien, le succès consiste à triompher, donc à monopoliser l'attention, à devenir le centre du monde. Et Lucien hésite entre deux voies pour arriver à monopoliser l'attention. la voie vertueuse, je devrais dire, celle que prêche son ami Daniel d'Arthez, et la voie facile, la voie stratégique, celle que lui est enseignée par Lousteau et qu'il découvrira lui-même dans la carrière de journaliste. Il y a dans Les Illusions perdues une critique cruelle du journalisme. Voilà, je vous lis quand même un petit passage. C'est l'opinion. Le journal, au lieu d'être un sacerdoce, est devenu un moyen pour les partis. Ça les étonnait au début du 19e siècle. De moyens, il s'est fait commerce, et comme tous les commerces, il est sans foi ni loi, etc. Mais le personnage qui prononce ce jugement, Claude Vignon, voit aussi très très bien les dangers qui menacent Lucien. Voilà, il dit, là-bas, c'est dans un de ces dîners balzaciens, voilà, là-bas, à côté de Coralie, un jeune homme. Comment se nomme-t-il ? Lucien. Il est beau, il est poète, et ce qui vaut mieux pour lui, homme d'esprit. Eh bien, il entrera dans quelques-uns de ces mauvais lieux de la pensée, appelés journaux. Il y jettera ses plus belles idées, il y desséchera son cerveau, il y corrompra son âme, il y commettra ses lâchetés anonymes qui, dans la guerre des idées, remplacent les stratagèmes, les pillages, les incendies, le revirement de bord dans la guerre des condottieri. Quand il aura, lui, comme mille autres, dépensé quelques beaux génies au profit des actionnaires du journal, ces marchands de poissons le laisseront mourir de faim s'il a soif, et de soif s'il a faim. Ça, c'est le type d'esprit balzacien. Voilà. Et effectivement, c'est ce qui se passera, parce que Lucien, impatient d'arriver, désireux de gagner de l'argent avant de le mériter véritablement, se lance dans le journalisme. Il attaque son ami Arthez, et dans une des scènes les plus émouvantes, mais aussi les plus mélodramatiques du roman. Je me demande si des choses comme celle-ci se passent vraiment, peuvent se passer. Il doit, pour son journal, attaquer Daniel d'Arthez. Il écrit un article qu'il attaque, et il va voir Daniel d'Arthez lui montrer cet article. Et Daniel, dans sa noblesse incomparable, lui répondra. « Voyons l'article, dit d'Arthez, ému par tout ce que Lucien venait de lui dire. » Lucien lui tendit le manuscrit, d'Arthez le lut, et ne put s'empêcher de sourire. Quel fatal emploi de l'esprit ! S'écria-t-il, mais il se tut en voyant Lucien dans un fauteuil accablé d'une douleur vraie. Et il continue, Daniel, voulez-vous me le laisser corriger ? Je vous le renverrai demain, reprit-il. La plaisanterie déshonore une œuvre, une critique grave et sérieuse, et parfois un éloge. Et je saurai rendre votre article plus honorable et pour vous et pour moi. D'ailleurs, moi seul, je connais bien mes fautes. Et il a réécrit son... Ces paroles foudroyèrent Lucien, qui revint à Palan, rue de la Lune. Le lendemain, le poète porta au journal son article, renvoyé et remanié par d'Arthez. Mais depuis ce jour, il fut dévoré par une mélancolie qu'il ne sut pas toujours déguiser. Je m'arrête ici pour les illusions perdues. On voit la chute de ce personnage, cet extraordinaire gaspillage, pour quitter donc ce monde de la deuxième option, de ce monde où notre vie nous est en quelque sorte donnée par notre appartenance sociale, par notre appartenance à une de ces alvéoles de l'univers, et dont nous essayons de sortir par cette énergie énigmatique, pour revenir à cette conception du XVIIIe siècle de l'autosuffisance. Nous sommes en quelque sorte maîtres de nous-mêmes. Sauf que je présenterai ici avec Adalbert Stifter une vision qui est absolument opposée à celle de, non pas celle de Balzac, mais à celle qui est décrite dans Les Illusions perdues, une autosuffisance de personnages qui n'essaient pas d'imposer leur loi à l'univers. Donc, on veut, à cet art balzacien, et qui est celui du roman français du XIXe siècle, et en partie aussi du roman anglais, qui décrivent des univers de manière exhaustive, des univers sociaux qui ont une très grande pénétration morale, qui décrivent une énergie en explosion continue, une énergie dont la fin est le succès social dans sa forme la plus dominatrice, qui consiste à devenir le premier, devenir le centre. Nous passons maintenant à un auteur dont l'art, Stifter, est fondé sur des options symétriquement opposées. Et Stifter peint un univers limité, petit, uniquement tel que vécu et vu par les personnages. Il n'y a pas de « voici pourquoi ». Chez Stifter, il n'y aura pas de digression sublime sur la fabrication du papier. Il y aura d'autres types de digressions, mais enfin, on ne les verra pas dans L'homme sans postérité. Il y a une discrétion morale absolue chez Stifter. La vie intérieure des personnages n'est jamais décrite. Elle est tout simplement suggérée de temps à autre, suggérée. Il y a une retenue constante dans le discours et la fin de, l'objectif, la fin des personnages et le bonheur personnel, et plus que personnel, nous verrons, tout à fait en dehors de la tempête et du vertige qui agite le monde. Tout à fait en dehors de la tornade sociale. Ce sont des gens qui n'essaient pas d'imposer leurs lois au monde. C'est un univers où on ne s'intéresse pas à l'origine de la loi morale, s'il vient de nous, s'il vient de notre condition sociale, qui ne s'intéresse pas à ces divisions du monde en alvéoles bien différentes les unes des autres, ni au vertige napoléonien de la réussite, au sommet ou au plaisir de se trouver au centre de l'attention universelle. C'est un univers où il n'est pas question d'agresser, ni de prendre, ni de désirer brutalement, mais uniquement d'offrir, et d'offrir avec un maximum de discrétion, et de garder sa dignité. C'est un monde, je veux dire, et c'est peut-être ce qui le rend tellement sublime, où le centre de gravité des personnages n'est pas dans le regard des autres, mais dans la tranquillité de la conscience. C'est un vécu heureux dans sa simplicité. Ce monde qui nous entoure est beau. Il est notre habitat. Il s'offre à nous. Le regarder procure la paix. La forêt continue. Et maintenant, le sol est presque plat. Par-delà s'étendent de lumineuses prairies plantée d'arbres fruitiers. Elle mène à un vallon qui, calme et intime, contourne le versant des montagnes. Il en descend deux ruisseaux rapides, clairs comme des miroirs. L'eau coule gaiement sur les galets lisses, longe des vergers fournis, des clôtures de jardins, des maisons. Puis elle s'en va par les vignobles. Tout est à ce point calme que dans le clair d'après-midi, on entend au loin chanter le coq ou résonner quelques clochers de village. Il est rare qu'un citadin visite cette vallée et aucun encore n'y a établi sa résidence estivale. Vous voyez, Stifter présentait un petit peu le déplacement des voisins vers la France. Hein. Enfin, ça se passe d'ailleurs en Autriche. Hein. La seule douleur et qui est bien cachée, est celle d'être seul, sans famille, sans amis, sans être entouré de personnes auxquelles on puisse consacrer notre vie. Voilà le contraste sur lequel est fondé l'homme sans postérité. C'est la gaieté d'un groupe de jeunes qui courent dans la montagne. De nouvelles conversations ne tardèrent pas à se nouer sur ces entrefaites. Ces jeunes, ces garçons parlèrent de tout, le plus souvent tous ensemble. Les sujets les plus élevés, les plus profonds étaient traités. Mais ils eurent vite épuisé les uns et les autres. Puis vint la politique. Il fallait dans l'État la liberté la plus illimitée, la justice la plus absolue, une infinie tolérance. Quiconque y ferait obstacle serait abattu et vaincu. L'ennemi extérieur brisé, la gloire alors nimberait la tête des héros. Pendant qu'ils débattaient ainsi de ce qu'ils croyaient être de grandes choses, il s'en passait autour d'eux qui leur semblaient assurément bien petites. Les buissons se couvraient de verdure, la tête couvée et germée, jouant déjà avec les tendres pousses printanières comme avec autant de pierres précieuses. Ils se mirent alors à chanter, etc. Et d'autre part, la solitude du vieillard. Et pourtant, tandis que ces jeunes gens fêtaient ainsi cette journée, il en allait ailleurs bien différemment. Cette journée, un vieillard l'avait passée assis sur un banc, au soleil, devant sa maison, loin de ces arbres où avaient chanté les rossignols, où avaient retenti les rires si joyeux de nos adolescents, loin derrière les montagnes bleues qui bordaient l'horizon, se trouvait une île avec une maison. Le vieillard était assis devant cette maison et il tremblait devant la mort. Depuis des années déjà, on aurait pu le voir là. Encore eût-il fallu qu'il consentît à se laisser voir. Il n'avait jamais eu d'épouse. Nulle compagne âgée n'était assise à ses côtés sur le banc. Nulle femme ne l'avait jamais accompagné nulle part. Pas plus autrefois qu'aujourd'hui où il se trouvait propriétaire de cette maison. Jamais non plus il n'avait eu d'enfant. Jamais il n'avait connu le tourment ou la joie qu'il donne. Cette ombre que du banc il projetait sur le sable. Voilà le peintre qui parle. Cette ombre qui du banc il projetait sur le sable. Aucun enfant ne la foulait. Jamais, etc. Les amours ici sont des amours idylliques, comme celle d'Illusion perdue, moins la tirade sur l'invention du papier. Voilà, 50. Et dans son dialogue avec Hannah, cette jeune fille qui semble aimer, Victor, le jeune personnage, déplore sa solitude. « Vois-tu, toute la journée, j'avais la tête pleine de larmes. Il m'a fallu les retenir tout le temps pour qu'elles ne me jaillissent pas des yeux. Lorsque, après le repas de midi, je remontais si tristement le ruisseau, jusque sous les hêtres, ce n'était pas vraiment par ennui, c'était pour être seul, loin de tout regard. Voici ce que je me disais, je n'ai personne dans ce vaste monde, parce que lui aussi il se sent seul. Ni père, ni mère, ni sœur. Mon oncle, le vieillard que nous venons de voir, menace de me prendre le peu que j'ai, sous prétexte que mon père avait des dettes envers lui. Et les seuls qui aient été bons pour moi, il me faut les quitter, parce qu'il doit rejoindre son oncle. Anna répond, « Oh Victor, mon bon Victor, ne te rends pas malade. Certes, ton père et ta mère sont morts, mais cela fait déjà si longtemps que tu les as peine connus. En revanche, tu as trouvé une autre mère qui t'aime autant qu'une véritable mère. D'ailleurs, tu n'avais jamais eu jusque-là à regretter la mort de ta mère. Qu'il nous faille maintenant nous séparer est triste, très triste, mais ne blasphème pas contre Dieu. » Ainsi de suite. Là, c'est la douceur de la vie familiale, la mère nourricière, celle qui a élevé Victor et qui est la mère de Anna, hein, ne parle que de cela. Elle ne s'intéresse que à ceci. Et voici ce qu'elle dit. Si je trouve, il dit: Victor, lorsque tu es entré dans cette maison, la bénédiction semble y entrer avec toi. J'ai pu annuellement économiser pour Anna plus qu'il n'est d'usage. On prend mieux et plus habilement, et je dois dire plus facilement, soin de deux enfants que d'un seul. Ici, je parle de ma propre expérience. Et là où Dieu en bénit deux, il en bénit trois. Hein, ainsi de suite. Il y a un endroit magique dans ce roman. Si cet après-midi, comme tu l'as dit, ou demain, tu montes encore une fois dans la forêt, alors cherche donc un endroit. On pourrait presque le voir d'ici. Tu vois là-haut, le rasant où la lumière paraît descendre en ruisselant, l'endroit a de l'importance en ce qui te concerne. Il y jaillit une petite fontaine dont l'eau s'en va dans le ravin. Une pierre plate traverse le ruisseau. Mais elle ne lui dit pas en quoi consiste le mystère de cet endroit. C'est un endroit qui a de l'importance pour toi. Et le jeune homme doit partir visiter son oncle. Et son voyage est un véritable voyage initiatique, je dirais. Il est accablé de tristesse en partant. Il marche seul, mais en marchant, il constate que le monde devenait de plus en plus vaste, de plus en plus lumineux. Il s'étendait de plus en plus loin au fur et à mesure que le voyageur avançait. Partout où le portaient ses pas, des milliers et des milliers de créatures étaient dans l'allégresse. Il arrivera donc dans cette île, là où vit son oncle. Dans ce monde où il ne rencontre que des vieillards, dans ce monde qui est verrouillé, dans ce monde verrouillé. Pour bien se convaincre qu'il avait entendu fermer la grille, Victor retourna dans le couloir. Il constata qu'elle était verrouillée. Et il se rendit compte que ce jour-là, dans toute la maison, il avait vu que trois personnes, tout était âgé. Et il ne comprend pas, on ne lui explique pas pourquoi on l'a appelé. Son oncle refuse même de le voit à peine, garde le silence et l'examine. Il faut lisez, parce que, disons, c'est un sort de suspense caché et on ne sait pas. C'est pas du tout. C'est un roman contre-policier, anti-policier. C'est un suspense anti. Rien ne se passe. Et dans ce rien, chaque petite nuance est essentielle. Hein? Ce vieillard vit dans un décor. Partout alentour, on ne voyait que des choses sans vie, des objets abîmés. Et c'est le décor que doit contempler Victor. Et comme on ne jetait manifestement rien, parce qu'ils étaient économes, la poussière s'accumulait partout. Depuis des années, personne n'avait rien dû toucher. Les papiers jaunissaient sous le presse-papier. La pièce où une voûte en art brisé tenait le de plafond avait dû être peinte à l'origine, mais les nuances claires et obscures s'en étaient fondues en une seule teinte sombre, passée et uniforme. Et peu à peu, l'enjeu du récit devient visible, très, très lentement. Le vieillard finit par parler à Victor. L'oncle finit par parler au neveu en lui demandant quels sont ses projets d'avenir. Et effectivement, Victor avait réussi, la parenté de Victor avait réussi à lui procurer un petit emploi en ville au gouvernement. Et Victor raconte ici que il avait l'intention de travailler autant que ses forces le lui permettaient. Et vous avez ici une version autrichienne, une version, disons, en miniature du rêve napoléonien. Il soumettrait à ses supérieurs tout ce qui aurait à être modifié. Il ne tolérerait ni négligence ni détournement. Pendant ses heures de liberté, il entreprendrait l'étude des sciences et celle des langues européennes pour se préparer à de futurs travaux d'écrivain. Puis il étudierait aussi l'art militaire pour pouvoir un jour parvenir aux échelons les plus élevés du service de l'État, d'où il pourrait tout embrasser d'un coup d'œil, ou pour être à lui-même, aux heures du danger, propre aux fonctions de chef de guerre. S'il se trouvait avoir quelques talents, il voudrait aussi ne pas tout à fait négliger les muses. Voici le projet de vie de ce garçon modeste qui part de ce orphelin. Mais en réalité, on se rend compte que l'oncle solitaire aime Victor et qu'il veut établir un rapport affectif avec lui. L'oncle lui dit, j'ai obtenu un congé, tu dois parler à ton poste tout de suite. Et il le montre, reste encore avec moi. Le jeune homme était à la fois étonné et gêné. Il hésite et il dit, je veux bien rester ici quelque temps, mon oncle, si vous le désirez, et puisque vous le trouvez bon, puisque vous êtes extrêmement poli. Et alors, pour la première fois, le vieil homme dit, rien d'autre ne me pousse que le désir de t'avoir encore un peu là. C'est la seule manière de dire que... Et le jeune homme se dit, un instant, une pensée lui traversa l'esprit. Et si c'était de l'inclination, si cet homme préférait tout de même un être humain à cet amas de choses mortes dont il était entouré. Et peu à peu, l'oncle s'ouvre et on a la clé de la situation qui est donnée, comme toujours, chez Stifter et comme parfois chez Fontane, seulement à la fin d'un long récit fait de petites touches de couleurs. Vous voyez, l'histoire est celle-ci. Cet oncle, dans sa jeunesse, aimait Ludmila, Ludmila qui est la mère nourricière, celle qui a adopté Victor et qui est la mère de Anna. Il l'aimait. Il était amoureux d'elle, mais cette Anna aimait le père de Victor, le frère de l'oncle. Et il les voit, l'oncle les voit, ensemble, dans cet endroit mystérieux que Ludmila indique au jeune homme. Il les voit ensemble. Il part et il vivra seul toute sa vie. Il amassera beaucoup d'argent. Il aura une carrière industrielle. Enfin, s'il ne réussit pas en amour, on peut toujours avoir le second choix, le choix le moins agréable, qui est celui de faire un peu d'argent. Mais le père de Victor est un homme faible. Et il quitte Ludmila. Il épouse une autre fille. Il aura Victor comme fils. Mais cette femme meurt, je crois, en donnant vie à Victor. Et le père aussi sera emporté par la maladie. Donc Victor reste orphelin et c'est Ludmila qui le prend. Et on comprend aussi l'amour de Ludmila pour Victor, parce qu'en Victor, elle aime encore le père de Victor, qui n'a pas pu être son mari. Et l'oncle, qui aime encore Ludmila, et qui considère que Victor est en fait le fils de Ludmila, de la femme qu'il a aimée, l'aime aussi et veut lui laisser toute sa fortune. Mais il veut s'assurer que Victor est différent de son père, qu'il n'est pas quelqu'un de frivole. Et toute cette période initiatique que Victor face à l'ermitage du vieillard, où le vieillard ne lui parle même pas, il le méprise, il veut voir si le jeune homme a assez de force pour résister à l'adversité. Toute cette période est une période d'essai, et il devient convaincu que Victor mérite effectivement de recevoir cet héritage. Je t'ai observé tout ce temps, et l'on peut compter sur toi. Tu as un corps que la nature a fait fort et beau, et tu aimes exercer ta force, soit que tu escalades des rochers, soit que tu te promènes au grand air, soit que tu nages. Mais à quoi tout cela sert-il? Voilà un bien qui est loin de moi, oui, très loin, au-delà de tous les mondes. En secret, dit le vieillard, ma voix intérieure n'a cessé de me le dire. Tu n'arriveras pas à faire que son œil te regarde, l'œil de Victor. Tu n'atteindras pas la bonté de son cœur parce que tu n'as point semé ni planté. Je le reconnais. Les années qu'il aurait fallu pour cela sont maintenant révolues. Elles sont à présent sur l'autre versant des montagnes. Et il n'est aucun pouvoir capable de le faire remonter de ce côté-ci où s'étendent déjà des ombres froides. Retourne donc auprès de cette vieille femme dont tu ne peux plus guère espérer recevoir de lettres avant ton départ. Va auprès d'elle et vis en paix et dans la joie, parce qu'elle a semé de l'amour. Victor était bouleversé. Le vieillard était assis de telle sorte, de nouveau le peintre Stifter, que les éclairs illuminaient son visage, puisque c'était pendant une tempête. Parfois, dans la pièce obscure, on eût cru que du feu courait dans ses cheveux gris, que la lumière éclatait sur ses traits ravagés. Si naguère le silence inconsistant et l'indifférence morte de cet homme avaient paru à Victor navrant et vain, il n'en était que plus remué à présent par son agitation. Donc Victor aura quand même la possibilité de vivre, d'épouser Anna et de mener une vie tranquille sans devoir monter l'échelle napoléonienne. Il aura le premier choix. Et le message ici est très beau parce que on se rend compte que nous ne vivons pas notre vie, ni Anna. Ni Ludmila, ni le père de Victor Hippolyte, ni l'oncle n'ont pas été leur vie. Chacun a en quelque sorte vécu à côté de sa vie parce qu'aucun n'a pu épouser l'être qu'il aimait et ils ont tous porté dans leur vie ce regret profond. Mais bien que nous ne soyons pas notre vie, Stifter semble dire que nous ne vivons pas uniquement pour nous-mêmes, nous vivons pour donner, et qu'il est possible d'imaginer un rachat de ce malheur dans le bonheur de la prochaine génération. Le bonheur de Victor et de Anna rachètera les souffrances de la génération précédente. Le secret de la fontaine est dévoilé, et je finis sur deux citations, une citation de Stifter et une citation de Bonhoeffer, le théologien allemand qui est protestant, qui aimait beaucoup Stifter. Voilà comment ce que dit Ludmila en jugeant l'oncle. Il dit c'est un homme admirable. C'est un homme admirable. Personne ne peut le savoir mieux que moi. C'est pourquoi j'ai toujours insisté pour t'envoyer chez lui. Mais, mon Victor, il a aussi un côté dur et rugueux. Et voilà pourquoi il n'est jamais parvenu à se faire aimer de quiconque. Et pensant à lui, souvent me venait à l'esprit la parole des livres saints, selon laquelle la figure divine ne se manifesterait pas dans les roulements du tonnerre, ni dans les hurlements de la tempête, mais dans le murmure de la brise qui descend le long du ruisseau à travers les bosquets fertiles. Le divin est dans la douceur. Et voilà ce que dit, pour conclure, ce que dit Bonhoeffer dans son livre sublime sur l'éthique, qui n'est pas fini. On a une citation d'une lettre écrite en décembre 1943 à propos de la question des bombardements et de la peur des bombardements. Vous savez que Bonhoeffer était un antifasciste qui a été anti-hitlérien, qui a été assassiné en prison est emprisonné, assassiné juste quelques mois avant la libération de l'occupation de l'Allemagne, et précisément pour que des gens comme lui ne puissent pas survivre. Et qu'il dit, bon, il est naturel d'exprimer sa peur, il est naturel d'exprimer sa peur des bombardements, mais en réalité, être vrai, ne veut pas dire avouer tout ce qui est là. Il dit, Dieu lui-même a inventé les habits dans la Genèse 3:21. Ce qui veut dire que in statu corruptionis, il y a beaucoup de choses dans l'homme qui doivent rester cachées. Et que s'il est parfois trop tard pour se débarrasser du mal, il doit au moins être gardé secret. Pour moi, il continue en disant, tout montrer est cynique. Et même si le cynique apparaît à lui-même comme tout à fait honnête, et s'il fait semblant d'être un admirateur fanatique de la vérité, il échoue quand même d'arriver à la vérité qui a véritablement de l'importance, à la vérité que nous avons besoin de secret. Pour moi, il continue, la grandeur de Stifter vient du fait qu'il s'abstient d'entrer dans la vie intérieure de l'homme, qu'il respecte son secret et qu'il regarde les hommes, pour ainsi dire, d'une manière assez discrète toujours, de l'extérieur et non pas du tout de l'intérieur. Bon, voilà. Donc,